dessous de l'infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'infox.
Le combat contre la désinformation a plusieurs lignes de front. L'éducation est un des piliers de cette lutte qui s'est engagée. Celle des jeunes est particulièrement importante, d'abord parce que leur vigilance doit être sollicitée pour combattre l'infox, mais aussi parce qu'ils sont de gros consommateurs du principal vecteur de la propagation de fake news, les réseaux sociaux. Alors comment les intéresser à la lutte contre la désinformation? Comment développer leur esprit critique et les amener à s'informer auprès de sources fiables? On en parlera avec Juliette Loiseau, elle est journaliste au Monde des Ados, un magazine d'actualité pour les collégiens. Au Brésil, les protecteurs de l'environnement accusés d'être responsables des incendies. Les images censées le prouver sont sorties de leur contexte. Vérification faite par Maëva Poulet de la rédaction des Observateurs de France 24. Mais tout de suite, les dessous de l'infox, la chronique. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors, phénomène désormais global, le conspirationnisme, le mouvement QAnon, jugé dangereux par le FBI, est désormais bloqué par Facebook. Ça n'est pas la première fois que de telles mesures sont prises pour tenter d'enrayer la propagation d'infox sur les réseaux sociaux. Sophie, quels sont les sujets de prédilection des adeptes de QAnon?
Alors, ceux qui se réclament de QAnon dénoncent dans leur message ce qu'ils désignent comme l'état profond qui tire les ficelles pour contrôler les populations au profit d'une caste élitiste à abattre. Ils se considèrent eux-mêmes comme les éveillés face au peuple soumis et endormi, et ils se répandent sur les réseaux sociaux sous de fausses identités pour contester toute vérité établie ou fait historique comme la Shoah et tout ce que les médias présentent ou ont présenté comme des faits d'actualité. Les attentats du 11 septembre, la crise financière de 2008 et aujourd'hui la crise sanitaire du Covid-19. Ils en dénient la réalité et sont donc opposés à toutes les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, masques, confinement et autres restrictions de rassemblement.
Et quelle est l'origine alors de cette dénomination QAnon?
Alors cette désignation QAnon provient du réseau 4chan, un forum où tout s'échange sur le web sans modération et de façon anonyme. Les premières occurrences de messages signés Q remontent à 2017. Le Q, première lettre du mot question, question, fait référence à un code pour faciliter les communications internationales. Les premiers messages proviendraient d'un mystérieux haut fonctionnaire américain, message crypté sous le sceau de l'anonymat. C'est le sens de Anon.
Et est-ce qu'on peut établir un profil type des adeptes de ces théories complotistes?
En général, à côté du hashtag QAnon, les internautes associent le hashtag Where We Go One, We Go All, tous pour un pour tous en français, mais aussi hashtag MAGA, Make America Great Again, le slogan de Donald Trump pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Il signe également hashtag Patriote, Obamagate, Pizzagate, pédophile. Ce sont des ultra-conservateurs, les sympathisants d'extrême droite, souvent racistes, antisémites, antiféministes.
Et donc, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, ils s'en prennent particulièrement aux démocrates.
Oui, ils sont convaincus que les démocrates aux États-Unis et ce qu'ils appellent l'élite mondialiste partout ailleurs, complices de la finance internationale, sont des satanistes impliqués dans un scandale d'exploitation sexuelle des enfants. Ils voient dans le président Trump l'homme qui viendra à bout de ces élites corrompues et pédophiles. Ce que l'on observe à travers leurs comptes sur Facebook et Twitter notamment, c'est qu'ils ratissent très large et qu'ils s'associent des causes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La pédophilie, le coronavirus deviennent des fléaux de nature politique. Outre les démocrates, ils s'en prennent aussi aux médias et aux scientifiques, tous accusés de cacher la vérité.
Est-ce qu'on fait face à un mouvement violent?
Alors oui, potentiellement. C'est ce qui incite d'ailleurs les grandes plateformes à faire un peu le ménage et supprimer les groupes les plus radicaux, ceux qui prêchent ouvertement la haine à coups d'accusations infondées. Il n'y a effectivement aucun élément factuel derrière les allégations dont je parlais tout à l'heure de pédophilie à l'encontre de Hillary Clinton et de nombreuses personnalités du showbiz dénoncées à longueur de vidéos complotistes. Les accusations calomnieuses sont souvent assorties de menaces de mort par les adeptes de ces théories, mais surtout les QAnon commencent à sortir du web et de l'anonymat. Cela ne se limite plus à des t-shirts et des pancartes arborant la lettre Q lors des meetings de Trump. Certains exhibent un arsenal beaucoup plus inquiétant, comme on a pu le voir lors de manifestations anti-confinement aux États-Unis avec la présence de militants armés affichant les signes de ralliement au groupe Q.
Et comment expliquer alors que le phénomène devienne global?
Eh bien, loin de repousser leurs avances, le président Trump, en les qualifiant de patriotes, a boosté leur renommée mondiale. Certains de leurs plus fervents adeptes, comme le Québécois Alexis Cossette, s'occupent de traduire toutes leurs vidéos en français et de les diffuser d'ailleurs. D'autres prennent le relais dans d'autres langues. Une chaîne YouTube dénommée « Fils de pangolin » se charge également de répandre les versions françaises de ces vidéos complotistes chez les internautes francophones. Les milieux d'extrême droite allemande et suisse sont également très actifs et lorsque les comptes sont supprimés sur une plateforme, on les retrouve souvent sur une autre, d'un continent à l'autre.
Merci Sophie Malibaud, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine François.
Les jeunes sont en première ligne quand on parle Infox. D'abord parce que la jeune génération navigue plus qu'aucune autre sur les réseaux sociaux qui sont le principal vecteur de la propagation des fausses informations. Mais aussi peut-être parce que les jeunes n'ont pas toujours le recul et la culture nécessaire pour distinguer le vrai du faux et peuvent donc se laisser abuser par la désinformation. Quels conseils leur donner pour les aider à ne pas se laisser piéger?
On en parle.
On en parle avec Juliette Loiseau qui est journaliste au Monde des Ados, un magazine d'actualité pour les collégiens. Bonsoir à vous Juliette Loiseau.
Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez pour commencer peut-être décrire le travail de formation, d'information sur l'Infox que vous faites auprès des jeunes publics ?
Alors ce travail il consiste essentiellement en fait à décrypter les informations qu'ils voient, notamment en ce moment avec le coronavirus et la crise, c'est très porteur de beaucoup d'informations, il y en a dans tous les sens parce que comme vous le disiez, ils sont sur de nombreuses plateformes, il y a énormément de flux, ils sont à un âge où on construit encore son esprit critique, c'est le but d'aller à l'école, du travail avec les parents. Du coup nous tout notre travail en fait c'est de leur expliquer pourquoi telle ou telle information est fausse ou partiellement vraie ou a été sortie de son contexte, mais surtout de leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour savoir que bah là cette vidéo elle est pas datée du bon moment, que les images ont été déformées, que les propos qui sont tenus par telle ou telle personne sont hors contexte. Donc plus que de dire ça ou ça c'est faux, parce que c'est des adolescents et ils aiment bien aussi avoir raison hein, quand ils vous racontent quelque chose, c'est vraiment de leur montrer tout le travail de fond qu'il y a derrière. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans nos articles, notamment pendant le confinement, on avait une rubrique dans chaque magazine qui prenait une fake news et qui expliquait pourquoi elle était fausse et comment est-ce qu'on arrivait avec des choses très simples en fait, remonter à la source, regarder quelques éléments à savoir si c'était vrai ou pas.
Et est-ce qu'on peut dire que la jeune génération est plus crédule, plus à même de gober de fausses informations que les adultes ?
En fait, cette question, elle est compliquée parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude solide, aucune preuve qui dise que les ados, en fait, sont plus sensibles à ça qu'un adulte. Quand on voit aujourd'hui la propagation des théories du complot et des fausses informations, c'est quand même beaucoup d'adultes qui sont derrière sur les réseaux sociaux. Eux aussi la produisent, la partagent. Il n'y a qu'à entendre certains cercles, certaines discussions. Enfin, voilà, ça vient aussi beaucoup des adultes. Du côté des ados, c'est difficile parce qu'il y a d'une part, l'adolescence est quand même un moment où on aime bien s'opposer aux adultes et du coup raconter un peu ce que nous on sait parce qu'on est adolescent, parce qu'on l'a vu, on l'a entendu avec des copains et du coup ça va à l'encontre du discours des adultes. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte et c'est vrai que souvent sur les théories du complot, les adolescents aiment bien faire croire qu'ils sont d'accord avec ça juste pour vous embêter en fait en tant qu'adulte. Mais il y a une autre problématique qui est celle du flux constant en fait auquel ils font face et notamment sur YouTube qui est un des réseaux sociaux sur lequel ils sont le plus. Les plateformes font aussi en sorte que, alors les adolescents, mais que tous les utilisateurs restent le plus longtemps possible et donc on enchaîne des vidéos de recommandations de plus en plus spectaculaires, de plus en plus sulfureuses, avec des informations de plus en plus inconnues du grand public. Et je ne sais pas s'ils sont crédules, parce que quand on en parle avec eux, ils arrivent rapidement à se rendre compte que c'est des bêtises, ou en tout cas que c'est transformé, mais pris dans le flux de toutes ces vidéos, de toutes ces informations, c'est parfois difficile de faire la part des choses, surtout quand on n'a pas le contexte de l'information qu'il peut y avoir autour.
Justement, alors, à quel type de fausses informations les jeunes sont-ils, à votre avis, plus vulnérables, d'après votre expérience à leur côté ?
Bah, ça va être sur les sujets qui les intéressent le plus, notamment ce qui concerne les célébrités, que ce soit de la musique, du cinéma, où ils suivent beaucoup ces informations-là. Alors là, rapidement, s'il y a l'info que tel footballeur, bah, on en parlait dans un dossier, Ronaldo allait ouvrir des hôpitaux pour soigner des enfants, bah, là tout de suite ils sont sensibles parce que ils apprécient cette personne, ils la suivent. Ça va être aussi dans le milieu du sport, donc dans le milieu de la culture. C'est vraiment les milieux qui les intéressent le plus et qui peuvent être plus sensibles, ouais, à suivre ce qui se passe là. Après, ils suivent aussi l'information comme tout le monde. Et là, en ce moment, notamment sur la question, que ce soit des masques ou du coronavirus ou de tout ce qu'on peut entendre, ils sont touchés, sensibles, et ils écoutent aussi ce qui se dit là-dessus.
On va y revenir dans le détail. Vous avez sorti dans le monde des ados un numéro spécial sur la désinformation en distinguant 7 catégories qu'on évoque d'ailleurs souvent dans cette émission. Je les cite une nouvelle fois pour fixer les idées. Alors, il y a les informations qui sont purement et simplement inventées, les mensonges, on y reviendra. Deux, il y a aussi la manipulation. Cela concerne souvent les photos. On leur fait dire autre chose que ce qu'elles représentent véritablement. Les théories du complot, vous l'avez évoqué. Il y a aussi ces infos qui sont diffusées dans des journaux fiables, mais qui ne sont pas vérifiées. Il y a les canulars, qu'on prend au premier degré. Alors, la septième catégorie, ce sont les légendes urbaines. Expliquez-nous d'abord ce que sont ces légendes urbaines.
Les légendes urbaines, ce sont des histoires modernes, proches du mythe, en fait, qui se propagent du bouche à oreille. Alors, bouche à oreille, ça marche aussi très bien sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est des histoires qu'on entend inlassablement. Alors, soit pour faire peur, soit pour faire rire, ou c'est souvent dans ces cas-là. Mais il y en a une, par exemple, qu'on retrouve chaque année, qui moi déjà existait au moment où j'ai passé le bac et qui existe encore en ce moment. C'est celle de la fameuse légende urbaine sur un jour au baccalauréat de philosophie. Le sujet, c'était qu'est-ce que le courage? Un élève a répondu le courage, c'est ça, point, et il a eu 20. Et en fait, cette histoire circule, je pense, depuis des décennies.
Oui, je l'ai connue aussi. Donc, vous voyez que
et elle existe encore aujourd'hui. En fait, c'est ça les légendes urbaines. C'est des espèces de mythes fondateurs qu'on se partage un peu comme ça entre amis ou entre proches.
Je reviens sur les canulars. Au départ, une plaisanterie, donc prise au premier degré. Ça peut être dangereux aussi.
Oui, tout à fait. En fait, à la base, les canulars, ils sont faits pour rire. Et le meilleur exemple, c'est le Gorafi, quand publie des dizaines et qui détourne un peu l'information. Quand on n'a pas le contexte et qu'on n'a pas le recul, évidemment, on le prend au premier degré. Et ça peut faire, des ravages. Dans le dossier, on parlait d'une information qui avait été, une fausse information qui avait été partagée par le Gorafi sur Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle de 2017, qui disait qu'il fallait construire un mur autour des Algériens pour les empêcher de migrer. Et en fait, cette information a été prise au premier degré par des journalistes notamment et partagée. Mais parce qu'en fait, il y a toute cette question en fait de l'esprit critique et du recul. Et dans un cas un peu plus récent, il y avait eu l'émission Touche pas à mon poste qui avait fait un canular notamment homophobe en passant des coups de fil. Ça fait rigoler les personnes qui le font, mais ça peut avoir des ravages sur les personnes qui en sont victimes.
La rumeur, souvent sans fondement, elle court souvent dans les cours des collèges.
Ouais. La rumeur, ouais, c'est vraiment la porte d'entrée pour expliquer ce que c'est qu'une fausse information aux adolescents. En fait, ils ont tous été soit victimes, soit témoins d'une rumeur, machin qui raconte que truc a embrassé bidule. Et en fait, il y en a plein. Il y en a dans les cours de récréation, il y en a parfois sur les réseaux sociaux, il y en a aussi des fois dans les médias. Et c'est assez intéressant de leur en parler parce que c'est des choses qui les touchent tout de suite et en fait ils se rendent compte très vite de l'impact que peut avoir une rumeur et de comment est-ce qu'on remonte à la source de cette rumeur, comment est-ce qu'on va voir pourquoi telle personne a raconté ça, quels sont les impacts. Et en fait, en prenant cet exemple-là, ils se rendent compte de l'ampleur de ce que ça peut être une fausse information à une autre échelle.
Vous êtes-vous optimiste quant à notre capacité, peut-être pas d'éradiquer, mais en tout cas de limiter la diffusion d'infox auprès des ados d'aujourd'hui?
Ouais, moi je suis assez optimiste parce que notamment dans tous les ateliers d'éducation aux médias et à l'information qu'on fait avec le monde des ados, et même beaucoup de journalistes et d'associations sont mobilisés sur ce terrain-là, en fait les adolescents ils sont réceptifs et ils comprennent quand on leur explique comment on construit l'information en fait en tant que journaliste, pourquoi est-ce qu'on décide de parler de tel sujet, comment est-ce qu'on trouve les sources, comment est-ce qu'on construit un article, à quoi est-ce qu'on doit faire attention. En fait, ça leur met les mains dans le cambouis quand eux ils doivent passer à la rédaction d'un article, ça leur montre comment on fait. fait, et ça leur permet en fait de garder dans un coin de la tête toutes les questions qu'on se pose quand on est face à un article. Et on fait souvent un exercice où on leur donne un panel d'articles avec des infos vraies et d'autres fausses, et en fait ils arrivent très rapidement à repérer les vraies, les fausses, les logos, les choses qui vont pas, là où ça a été détourné. Et en fait, si cette éducation est proposée à l'ensemble des adolescents, enfin moi j'ai pas de crainte sur l'avenir, en tout cas ils arriveront à y faire face. Et puis c'est aussi tout le travail de l'esprit critique et d'être éduqué pour prendre du recul sur l'information et sur ce qu'on voit.
Alors restons-en là sur cette note positive. Merci Juliette Loiseau, journaliste au Monde des Ados.
Merci à vous.
Bonsoir Maëva Poulet de la rédaction des Observateurs de France 24.
Bonsoir.
Alors, cette année encore, le Brésil a connu d'importants incendies qui ont ravagé l'Amazonie, mais aussi le Pantanal. C'est une vaste zone humide dans le sud-ouest du pays. La politique environnementale du président Bolsonaro est très critiquée, mais sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des images sorties de leur contexte pour accuser des feux les organismes de protection de l'environnement.
Oui, alors au Brésil, il y a plusieurs sites de vérification qui repèrent ces contenus trompeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Parmi ces médias, il y a Aos Fatos, qui fait partie, comme la rédaction des observateurs, du réseau international de fact-checking, IFCN. Et dans un article le 21 septembre, Aos Fatos expliquait avoir publié 6 articles de vérification en lien avec les incendies en l'espace de 10 jours. Selon le média, les contenus vérifiés avaient en commun d'attribuer les feux à 3 cibles connues, les peuples indigènes, les écologistes et les ONG.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire une de ces fausses informations ?
Eh bien, mi-septembre, une vidéo montrant des hommes mettre le feu à une zone de broussailles a été partagée sur les réseaux sociaux. Ces hommes sont vêtus de vestes jaunes sur lesquelles on peut lire « ICM Bio ». L'ICM Bio, c'est l'Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité, une organisation publique qui dépend du ministère de l'Environnement. Une des publications reprenant cette vidéo, qui a été vue plus de 25 000 fois, était légendée « Cela doit être largement partagé, ces bandits de gauche mettent le feu plutôt que de l'éteindre ». Donc l'idée, c'est d'accuser un institut de protection de l'environnement d'être responsable des feux.
Mais cette vidéo, elle est authentique ou pas alors ?
Eh bien, cette vidéo, elle n'est pas montée, elle n'est pas truquée non plus, elle n'est même pas ancienne. L'ICM Bio a fait un communiqué pour confirmer que les images avaient bien été tournées le 13 septembre dans le Pantanal, dans l'état du Mato Grosso. En revanche, si les hommes que l'on voit sur les images sont en train d'allumer un feu, c'est en fait dans le cadre d'une opération de contre-feu ou brûlage dirigé. C'est une technique utilisée pour contrôler les violents feux. Elle consiste à brûler tout combustible, donc végétation séchée ou bout de bois, se trouvant en avant de l'incendie, dans le but eh bien, d'éviter sa propagation.
Et ça n'est pas la première fois qu'un cas comme celui-ci est partagé.
Oui, voilà. En juin, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, IBAMA, également dépendant du ministère de l'Environnement, avait dû répondre à une vidéo similaire. Cette vidéo montrait des agents de l'IBAMA mettre le feu à de la végétation au bord d'une route, et la personne qui filmait commentait même en disant « Devinez qui met le feu ici, ce serait pour renverser le gouvernement Bolsonaro ». Mais là encore, il s'agissait d'un brûlage dirigé.
D'accord. Alors, il y a d'autres exemples que vous citez dans votre article sur le site des Observateurs. Ces cas de désinformation s'inscrivent aussi dans la continuité, il faut le dire, d'un discours politique qui est celui du président Bolsonaro.
En septembre, le nombre de feux de forêt a augmenté de 61% par rapport au même mois de l'année dernière en Amazonie brésilienne. Et il a presque triplé dans le Pantanal. Mais le 22 septembre, le président brésilien a dénoncé une campagne de désinformation brutale à l'encontre de son pays en ce qui concerne la situation en Amazonie et dans le Pantanal. Et il a accusé les fermiers indigènes d'être responsables des feux. Quelques jours plus tard, il a également accusé certaines ONG d'être à l'origine de crimes environnementaux pour faire de la mauvaise publicité au Brésil. Et ces accusations ont bien sûr été réfutées par les écologistes et par le célèbre cacique Raoni. Et d'ailleurs, pour l'heure, dans le Pantanal, par exemple, la police fédérale concentre ses investigations autour de 4 gérants de grandes exploitations agricoles. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à la végétation pour la transformer en zone de pâturage.
Voilà, on peut faire dire à une photo le contraire de ce qu'elle représente. Heureusement, les chasseurs d'Infox veillent et rétablissent la vérité. Merci Maëva Poulet de la rédaction des Observateurs de France 24. Je rappelle qu'on peut retrouver votre travail et de nombreux conseils sur la vérification des images sur le site justement des Observateurs de France 24. Merci à vous.
Merci.
Vérification faite.
C'est la fin des Dessous de l'Infox. Attaché de production, Florence Ponce, documentation, Déborah Lepage et réalisation, Claude Battista. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous l'onglet podcast.
François Bernard
vous dit bonsoir et à la semaine prochaine.